Économie, environnement, société, vous en êtes où sur ces sujets? Bonjour et bienvenue dans les podcasts de Livre en Marche. À l'occasion du festival, partez à la rencontre d'auteurs, d'autrices et de philosophes à travers une série de conférences autour des enjeux majeurs de notre époque. Bonne écoute!
Bienvenue à Livre en Marche pour ceux qui arrivent. Vous avez bien fait de venir. Métamorphose de la société française en 40 ans. Bon, vous êtes venu pour un stage de 5 jours parce que c'est à peu près ça que ça devrait nécessiter. Sinon, nous n'avons qu'une heure et quart et donc il va falloir qu'on aille hyper vite parce que vous avez devant vous 3 auteurs. Vous avez devant vous 3 livres passionnants et vous avez devant vous des questions importantes que nous ne pourrons qu'effleurer cet après-midi. Donc, mauvaise nouvelle, vous allez être frustrés et eux aussi. Vous, parce que vous aurez encore plein de questions à la fin et eux, parce qu'ils ont plein de choses à vous dire. Bonne nouvelle, à Livre en Marche, on cause avec les auteurs et vous les retrouverez après. Donc, ne pleurez pas trop à la fin. Alors écoutez, avant de présenter les auteurs, on va présenter le public. Métamorphose de la société française en 40 ans. Qui était déjà sur Terre il y a 40 ans? Bon, visiblement, vous avez un propos donc, que vous allez pouvoir centrer sur des connaisseurs de la période. Alors, on a un sondeur parmi nous, donc je commence par un sondage. Il est moins scientifique que les siens. Qui pense que depuis 40 ans, les choses ont changé? Bon, ils sont... ça va, hein? Qui pense... vous connaissez le bouquin de Michel Serres, hein, est-ce que c'était mieux avant? Qui pense que, ouais, c'était un peu mieux avant, plutôt?
Vous avez le droit de le dire. Hein.
Qui pense que non, c'est maintenant que c'est mieux? C'est mieux pour aller chez dentiste. C'est mieux pour aller... Ah, mais on a un paquet d'optimistes dans la salle, donc c'est absolument génial. Bon, eh bien écoutez, je commence à vous les présenter, parce qu'il faut aller vite, parce que notre propos sera dense. Vous allez voir, il y aura 5 points, en gros. Et puis après, ça sera à vous de faire le boulot. Hein. Il y aura 5 points, et les 3... points principaux, et il a fallu que je choisisse, et ils ont accepté le slogan, vous allez voir, nous parlerons du travail et de tout ce qu'il y a autour, nous parlerons de la famille et de tout ce qu'il y a autour, et nous parlerons de la travail, famille, et ben ouais, on parlera de la patrie et de tout ce qu'il y a autour, et on élargira peut-être aux croyances, aux modes de représentation, etc., etc. Alors, on va commencer par la droite. Notre interlocuteur de droite est Vincent Martigny. Il est politiste, historien des idées. Il est professeur à l'Université de Nice et à l'École Polytechnique. Et il est chercheur au CEVIPOF. Il est membre, par ailleurs, du comité de rédaction de l'hebdomadaire Le 1. Son livre, on ne va pas pouvoir le couvrir. Il faudra que vous l'achetiez cet après-midi parce que ça parle de sexualité, de féminisme, de famille, de consommation, de croissance, de mondialisation, de progrès, de diversité française, d'agriculture et paysannerie, de culture, de vie sociale, de travail, de récit national et de vie démocratique. Vous comprenez pourquoi j'étais obligé de faire quelques choix.
On est plusieurs quand même. Hein.
Oui, absolument. Ils sont plusieurs puisque vous êtes d'ailleurs très bien entourés et on pourra les citer sur leurs différents domaines. Ensuite, Jérôme Fourquet, c'est notre sondeur. Est-ce qu'on appelle ça effectivement comme ça? C'est un petit côté scaphandrier. Hein, c'est... ouais. Donc, notre sondeur est quelqu'un qui... enfin, moi, je dois dire que j'y prends beaucoup de plaisir à chaque fois parce que c'est une manière d'avoir un portrait de la société française. Mais il est également donc directeur du pôle opinion et stratégie d'entreprise de l'IFOP. Il est auteur primé, livre politique 2019, livre d'économie 2021, prix de la société de géographie en 2022. Et les livres qui m'ont marqué, alors il en a sûrement beaucoup plus que ça, c'est L'archipel français, La France sous nos yeux, La France d'après et Les métamorphoses françaises, dont je signale qu'il est particulièrement facile à lire parce qu'il y a plein de dessins.
On peut les colorier même.
Voilà, on peut presque le colorier, effectivement. Alors, nous avons là deux portraitistes de la société française qu'on va titiller pendant une heure et quart. Et nous en avons un qui a fait un choix très particulier, qui correspond d'ailleurs à son esprit, à sa carrière depuis le début. Ça s'appelle « Dans les âmes ». Vous vous rendez compte ce qu'on va explorer dans les âmes et dans les urnes. Vincent Jarousseau est photographe et documentariste. Il a commencé par l'engagement politique, je crois que c'est ça, hein, et il s'y intéresse toujours. Il est peut-être passé d'un politique avec un petit P et un grand P à un politique, là, cette fois-ci, en tant que documentariste et photographe, avec un grand P. Lui, il a fait un choix très particulier et que je dois dire, j'ai trouvé extrêmement intéressant. Il s'est intéressé à ce qui relie... Allez, je vous donne un certain nombre de noms qui sont dans le bouquin... Hénin Beaumont, Hayange, Beaucaire, Denain, Fourmi, Valenciennes et des autres. Il s'est intéressé à 10 ans à la rencontre de la France qui vote Rassemblement National. Donc il aura, ne vous étonnez pas, lui un propos qui sera centré sur le cœur de son livre, qui est une partie de notre population française qui fait ce choix-là. Et on tâchera de comprendre pourquoi c'est le cas. Alors, messieurs, pas de chance, vous allez devoir être courts pour la première question. L'évolution de la France en 40 ans, et vous avez 2 minutes pour trouver un point marquant de votre bouquin qui va nous donner envie de le lire. Qu'est-ce qui a changé en 40 ans et qui fait que c'est mieux ou moins bien, comme le disent. Vincent, vous voulez commencer ?
Avec plaisir. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour l'accueil. Très heureux de pouvoir partager quelques-unes des conclusions de ce livre. Je rappelle qu'encore une fois, c'est un livre collectif. On est heureusement, je suis incapable de parler de tous ces sujets. Je me suis entouré de gens parfois bien plus compétents que moi. Des gens comme Eric Fotorino, comme Laurent Berger, comme Dominique Méda, comme François Gémen, etc. Des noms qui vous sont peut-être familiers pour parler de tous les domaines dont vous avez parlé. Difficile de retenir... un domaine dans lequel la France a beaucoup changé, je dirais que globalement, c'est là où je vais peut-être trancher mes camarades et en général avec l'opinion, c'est que je pense que la France a changé en mieux depuis 40 ans, en largement mieux, si on observe quasiment l'intégralité des thématiques qu'on essaie de couvrir dans ce livre. Elle a changé en mieux dans les rapports entre les hommes et les femmes, la tolérance vis-à-vis des familles, la tolérance... leur vision de la sexualité, du consentement, ça c'est la première partie du livre. Elle a changé en mieux dans la prise de conscience des limites d'un monde fini, et même si, évidemment, il y a 1000 choses à dire, et il y a beaucoup de tables rondes tout à fait passionnantes qui s'exprimeront sur ce sujet, donc je pense qu'elle a beaucoup changé dans la compréhension que nous vivons dans un monde aux ressources finies, même si nous n'avons pas encore trouvé toutes les solutions. Elle a beaucoup changé dans la façon, la tolérance qu'elle exprime vis-à-vis des sexualités minoritaires, vis-à-vis des différences culturelles, vis-à-vis des différences régionales ou géographiques qui étaient très longtemps méprisées, notamment par le pouvoir central, et qui aujourd'hui font l'objet, je crois, d'une tolérance plus grande. Les enquêtes d'opinion le disent de manière générale, et je pense notamment aux travaux de Vincent Tibéri. Et je crois qu'elle est confrontée maintenant à des changements de type technologique, hein, dont on n'aura pas forcément le temps de dire beaucoup de choses aujourd'hui, mais qui sont des changements globaux, qui l'inquiètent, mais auxquels qui vont encore plus changer le paysage de ce pays. Mais je dirais que c'est une France qui est, par rapport aux Trente Glorieuses, puisque le sous-titre de notre livre, Les Temps Nouveaux, s'appelle « En finir avec la nostalgie des Trente Glorieuses », c'est de dire que, finalement, si nous pouvons être nostalgiques de notre passé, pour celles et ceux d'entre vous qui étaient nés il y a 40 ans, on peut individuellement être nostalgique, c'est même parfois, ça crée des œuvres merveilleuses et des beaux souvenirs. Mais en revanche, la nostalgie pour un passé comme un récit politique, elle est problématique parce qu'elle nous empêche de voir que nous vivons dans une société plus prospère, dont la prospérité, quoi qu'on en dise, demeure plus partagée que ce qu'elle était dans les années 70. Et pas seulement pour le dentiste, comme vous le disiez très justement, qui est un exemple que j'aime bien dire. Bon, évidemment, on a plus envie d'aller chez le dentiste aujourd'hui qu'en 1955, par exemple. Mais de manière générale, la société est moins hiérarchique, plus égalitaire, j'allais dire plus tolérante, plus ouverte, plus prospère, même si cette prospérité, on peut critiquer la façon dont elle s'est partagée, qu'elle ne l'a jamais été dans l'histoire de ce pays.
Je pense que Vincent va s'en charger, ne vous inquiétez pas. Alors, on le disait tout à l'heure, livre choral, écrit à plein de mains talentueuses. Ben, le livre de Jérôme Fourquet, c'est un livre encyclopédie aussi, et il ne va pas pouvoir parler de tout. Il y a un mot sur lequel, à un moment donné, j'aimerais bien qu'il revienne, qui est la question de l'archipel français. Il nous parle de changement de soubassement anthropologique et notamment beaucoup de changement de croyance et de déchristianisation. Alors, il y a un passage que je trouve particulièrement intéressant qui est « À chacun son psy ». Je parle sous votre contrôle, Jérôme, mais si je me souviens bien, il y a 27% des Français qui sont suivis par un psy, si je me souviens bien. Est-ce que c'est ça l'élément marquant pour vous ?
Qui sont déjà allés chez un psy ? Ça, c'est un des éléments marquants. Alors peut-être, d'abord, bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci pour votre présence. Puisqu'on va parler travail, famille, patrie, on parlait ce que c'était mieux avant ou pas. Et moi, si j'ai deux minutes, je voudrais les consacrer à deux changements tout à fait spectaculaires. On parlait du soubassement anthropologique qui interviennent dans les premiers jours de votre vie et à la toute fin de votre vie. En 1980, il y a 40 ans, 45 ans, les naissances hors mariage en France, c'est 10% des enfants qui naissaient. On les appelait hors mariage, avant on les appelait d'un autre nom. C'était 10%. C'était à peu près un chiffre stable depuis la Révolution française. Aujourd'hui, c'est 65% des enfants qui naissent dans des familles dont les parents ne sont pas mariés. Alors, ça peut vous paraître assez peu spectaculaire comme évolution, mais si on essaie de rendre les choses concrètes, prenons une jeune institutrice qui débute dans la carrière en 1980, la rentrée de septembre 80. La première classe qui lui est confiée est composée avec seulement 10% de ses élèves dont les parents ne sont pas mariés. Elle fait ses 40 annuités, elle part en 2020. La dernière classe qu'elle aura face à elle est composée aux deux tiers d'enfants dont les parents ne sont pas mariés. Et donc c'est un indicateur, vous voyez, qui n'avait jamais bougé dans le temps. Et là, en une carrière, c'est devenu totalement différent. Alors, est-ce que c'était mieux ou pas, chacun jugera. Pas forcément mieux, pas forcément moins bien. C'est juste un changement très, très spectaculaire. Donc ça, c'est la naissance. Et puis ensuite, il y a les décès. Et là aussi, grande stabilité dans les rites funéraires en France. En 1980, 0,9% des obsèques donnent lieu à une crémation. Pendant très longtemps, l'Église s'est opposée à ça. À la suite de Vatican II, en 65, l'Église autorise la crémation, mais continue de préconiser pour les fidèles le fait de se faire enterrer. En 1980, la pratique religieuse, l'assistance à la messe a déjà beaucoup reculé, mais il y a une espèce d'ombre portée, une espèce d'inertie sur les rites funéraires, et donc il y avait moins d'1% des gens qui se faisaient incinérer. Si tant est que l'envie vous ait pris de toute façon, il y avait 8 crématoriums en France, 1980. La seule option qui vous était offerte, c'était messe ou pas messe. Mais tout le monde finissait dans le trou. Voilà. Aujourd'hui, on est à 45% de crémation. Et ça va devenir majoritaire, puisque ça gagne 2 à 3% par an. Et donc là aussi, vous voyez une pratique qui était restée immuable pendant des siècles. En 40 ans, il y a un changement total qui s'est opéré. Alors c'est lié à la fois à la déchristianisation, puis aussi à des changements de mode de vie. C'est-à-dire qu'on nous parle souvent de grands remplacements. Moi, je parle aussi d'un grand déplacement. C'est-à-dire comment beaucoup de familles françaises se sont arrachées de leur terroir natal pour leurs études, pour se marier, pour leur carrière, pour leur retraite. Et donc, au moment des choix finaux, si l'on peut dire, on se dit, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on retourne se faire enterrer là où on est originaire, ou on va être au cimetière accompagné de plein de gens qui ont le même nom que nous, mais ça fait 40 ans qu'on n'y a pas mis les pieds ? Est-ce que je me fais enterrer là où je vis aujourd'hui, mais j'ai pas de racines ici, et puis mes propres enfants, eux, n'habitent plus là, de toute façon. Et donc, est-ce que le choix le plus rationnel, c'est pas la crémation ? Donc, vous voyez que 40 ans, sur des indicateurs aussi centraux que ceux-là, la France est complètement métamorphosée sans forcément qu'on en prenne conscience et sans forcément que ce soit mieux ou moins bien. C'est juste une France totalement différente.
Alors, indicateur, Jérôme a prononcé, je crois, le mot qui est celui que je retiendrai tout particulièrement. C'est une démarche scientifique, hein. C'est une démarche dont on aimerait qu'elle soit toujours respectée dans la presse. On part du fait, on cherche un certain nombre d'indicateurs et ensuite on fait les commentaires et je suis certain que vous allez revenir sur les commentaires ensuite. Alors Vincent Jarousseau, vous vous êtes focalisé, on ne vous en voudra pas puisque vous êtes là pour ça, sur une partie de la société française qui est la partie que vous allez nous décrire. Allez, un point marquant de votre livre pour qu'on ait vraiment tous envie de le lire, ce qui pour moi était un plaisir.
Mais je vais parler d'un point marquant comme mes camarades, deux points marquants comme mes camarades qui marquent les métamorphoses de la société française et que j'ai pu observer. Alors moi, je porterai pas de jugement sur ce que je peux constater. C'est pas moi qui vais dire si c'est moins bien ou mieux qu'avant. Mais le fait est qu'en allant dans ces anciens bassins industriels de Lorraine, du Nord, mais aussi dans des plaines agricoles du sud de la France, comme à Beaucaire, la tonalité générale qui peut être une reprise aussi d'un discours médiatique, j'ai dit qu'il peut, c'est plutôt de considérer que c'était quand même largement mieux avant. Combien de fois j'ai pu entendre des gens me décrire l'avenue principale d'Hayange comme les Champs-Élysées ou à Denain, cette ville où on trouvait tout, même des scaphandriers. Denain, petite ville désindustrialisée à côté de Valenciennes, qui avait une particularité, c'est que ça a été à la fois un lieu de production de l'acier et un lieu de production du charbon. C'est d'ailleurs là que Émile Zola va documenter l'écriture de Germinal en allant travailler dans la fosse Renard. Donc c'est tout un symbole. Et cette ville s'est effondrée autour des années 60, 70, 80, et principalement sur la dernière partie avec la fermeture d'Usine Nord, ce qui en fait aujourd'hui l'une des villes les plus pauvres de France. Et c'est là que j'ai enquêté entre 2016 et 2018, fin 2018, sur le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, sur cette France qui n'est pas en marche, en m'intéressant justement à la question des mobilités, des classes populaires, en prenant le contre-pied finalement de ce que Emmanuel Macron pouvait incarner, c'est-à-dire une France des anywhere, pour reprendre l'expression de David Goddard, de Français qui s'inscrivent complètement dans la mondialisation et dans les flux. Denain, c'est un symbole des perdants de la mondialisation d'une certaine manière. Donc si on veut marquer, je dirais, les grands changements que l'on a connus depuis 40 ou 50 ans, hein, Jérôme Fourquet et moi-même sommes nés en 73, c'est une année importante parce que c'est le premier choc pétrolier. Si je me réfère à cette année 73, en 1973, en France, vous aviez environ 6 salariés sur 10 qui étaient affectés à des tâches de production industrielle, manufacturielle ou agricole. Aujourd'hui, c'est à peine 1 sur 10. Donc il faut, je pense, c'est extrêmement important et intéressant, je dirais, de se focaliser, de s'intéresser à ce fait et de le confronter politiquement aux conséquences que cela a. Et deuxième point, puisqu'on est aussi là pour parler du travail, c'est bien voir que cette désindustrialisation, elle a aussi généré beaucoup de choses en matière de travail et de rémunération du travail. Il n'y a pas de gain de productivité dans les services, ou très peu. Et donc, ça a eu évidemment des conséquences sur le niveau de vie des Français. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour la première fois, vous avez quand même une génération depuis l'après-guerre qui a le sentiment, et ce n'est pas que un sentiment, c'est une réalité, qui sait que ses enfants vivra moins bien qu'elle. Ça, c'est la première chose. Deuxième changement majeur depuis 40 ans, cette fois-ci, on est en 1985, c'est très précis. Jean-Pierre Chevènement décrétait que 80% d'une classe d'âge devait avoir le bac. Donc je pense qu'il y a une concomitance de façon extrêmement forte entre les mutations, les bouleversements socio-économiques que nous avons connus depuis 40 à 50 ans et cette diplomisation de la société qui a généré finalement du progrès, c'est vrai, mais le revers de la médaille, c'est quand même un gros revers, c'est que ça a accéléré les stratifications éducatives et ça les a renforcées d'une certaine manière. Moi, je fais partie d'une génération, du moins celle de mes parents. Moi, j'avais un papa qui était ouvrier à l'aérospatiale à Nantes. Quand on rentrait comme ouvrier à l'aérospatiale, il y a plein de ses collègues qui ont eu des possibilités d'ascension sociale dans l'entreprise. Ils pouvaient devenir technicien supérieur, voire ingénieur. Bien évidemment, cette diplomisation de la société a bloqué en fait, des ascensions sociales. Et aujourd'hui, on est dans une société de classe figée. Julia Cagé qui parle de classe figée dans sa sœur. Qui parle de classe figée. Et ça, c'est vrai que c'est un sentiment très profondément ancré par rapport à toutes ces personnes que j'ai pu rencontrer, cette question de la stratification éducative, puisqu'il y a quand même beaucoup de perdants.
Et quelque part, on va se tourner vers le parti qui semble, disons, leur parler, les représenter.
Bon, on y reviendra évidemment dans le travail. Le rôle d'un animateur, c'est à certains moments de décrypter. Alors, le livre est extrêmement clair et facilement lisible, mais tout à l'heure, il a dit les anywhere et les somewhere. Donc, pour ceux qui éventuellement ne parleraient pas l'anglais, c'est une classification entre ceux qui pourraient vivre anywhere, c'est-à-dire à peu près partout, et ceux qui doivent vivre somewhere, c'est-à-dire qu'ils sont liés à un terroir, à un emploi, etc., etc. Mais sinon, il est parfaitement clair, le bouquin. Alors, l'autre livre parfaitement clair, ils le sont tous les trois, j'ai été dans le livre de Vincent Martigny, Chorale, on le disait, interpellé par un sujet qu'on retrouve d'ailleurs dans les trois livres. Et ce sujet, c'est un sujet que j'aime beaucoup, qui s'appelle le progrès. Alors, avant de parler de travail, famille, patrie, on va parler du progrès. Et la question que pose Étienne Klein dans votre livre est très beau. En gros, c'est le futur a-t-il encore de l'avenir ? Je vous la pose à tous les trois, mais vous n'avez pas un temps fou pour y répondre. Donc, je vous demande d'être concis. À vous, Vincent.
Alors, je pense que s'il y a une raison, pour revenir sur la thématique du livre, d'être nostalgique du passé, c'est dans la perspective qu'on avait dans les années 70 de ce que sera l'avenir. Si nous vivons aujourd'hui une crise, et qui est une crise avérée, c'est une crise du futur. Dans les années 70, beaucoup de gens voyaient comme futur l'horizon de l'an 2000. Cet horizon qui était quand même un horizon très positif, c'est-à-dire un horizon où, moi je venais d'une famille aussi d'ouvriers, dont les gens pensaient qu'on irait peut-être en week-end sur la Lune, ou en tout cas, il y aurait des écrans dans toutes les pièces, ça serait formidable. Alors maintenant, on sait que ce n'est pas si formidable que ça, on en revient. On les a. Pas la Lune, mais en tout cas les écrans. Donc il y avait quand même une perspective, une idée que était à venir quelque chose de meilleur. Je ne sais pas si les gens savent aujourd'hui que leurs enfants vivront moins bien qu'eux, mais en tout cas, ils le pensent. Ce qui, pour moi, n'est pas exactement la même chose. Et c'est vrai que nous vivons une crise du futur aujourd'hui, puisque cette crise du futur, elle est liée à la fois à la sidération face au bouleversement quasiment sans précédent depuis la révolution industrielle que nous connaissons aujourd'hui. Bouleversement anthropologique dont a parlé Jérôme, évidemment. Bouleversements écologiques et sociaux donc, qui ont un lien avec la société de consommation, bouleversements culturels avec la transformation rapide des sociétés, et donc bouleversements technologiques dont je parlais. Ces bouleversements, il faut bien comprendre qu'on n'est pas dans une période, on n'est pas en train de parler des années 80, là. On est en train de parler d'une période qui n'a quasiment aucun équivalent depuis 200 ans. Certains anthropologues vous disent quasiment depuis l'invention de l'imprimerie, peut-être même auparavant. C'est qu'on vit un moment absolument incroyable. Qu'il y ait une crise du futur parce qu'on est sidéré face à ces changements, c'est une première chose. Deuxièmement, je pense que, et c'est ce qu'on essaye de dire avec François Gémen dans le livre sur la question environnementale, qui est une question importante, c'est que peut-être y a-t-il eu, en tout cas, une forme d'erreur involontaire de la part de ceux qui souhaitaient une transition environnementale, c'est que c'est toute la rhétorique de la catastrophe. Nous devons agir pour éviter la catastrophe. Sauf que par rapport à ce que vous dites sur le progrès, tout le progrès en Occident s'est construit sur l'idée que nous allions vers une marche vers quelque chose qui serait mieux. C'est-à-dire demain sera mieux qu'aujourd'hui, nous aurons plus de choses. Progrès ouvrier, progrès sociaux, progrès culturel, progrès économique. Et il est très difficile de mettre en place un programme qui serait celui d'une transition environnementale si vous ne donnez pas à voir en quoi la société qui en émergerait serait une société de progrès, une société d'une nouvelle prospérité telle qu'on l'a connue, pas telle, mais plutôt dans une forme qui pourrait être celle qu'on a connue il y a une quarantaine d'années. Donc oui, il y a une crise du futur. Étienne Klein, il a cette phrase que j'aime beaucoup. Il dit, bah oui, mais quoi qu'il arrive, même pour les effondristes, le futur finira quand même par advenir. Ça, là-dessus, on est tous d'accord. Et pourtant, là, il y a, à mon avis, un blocage d'une partie de la société qui fait comme si le futur n'allait pas advenir. Comme si, dans 20 ans, dans 30 ans, c'était déjà terminé. Autant pas faire d'enfants, autant pas rien construire, parce que de toute manière, en 2050, voilà, tout ça est terminé. Mais on sait, même les plus catastrophistes des spécialistes disent qu'en 2050, il y aura encore une société qui va falloir l'adapter. Donc probablement, un des gros enjeux, et c'est là où ce livre est un manifeste, c'est qu'il va falloir dénouer cette crise du futur en imaginant à quoi va ressembler la société que nous souhaiterions construire pour éviter que d'autres la construisent à notre place.
Merci beaucoup. Le progrès, Jérôme, c'était le Concorde, c'était le TGV, c'était les centrales nucléaires, c'était tout ça. Vous vous interrogez beaucoup dans le livre Métamorphose française sur les croyances. C'est d'ailleurs, je crois, un de vos thèmes de recherche à l'IFOP, les croyances. Est-ce que si le progrès a changé de nature pour nos concitoyens à l'heure actuelle, Est-ce que c'est lié à un changement de croyance d'une certaine façon?
Oula, moi je serais plutôt tenté de prendre la chose à l'envers, c'est-à-dire que c'est toute une série de progrès techniques, scientifiques et autres qui ont modifié les croyances. Hein, une bonne partie de l'effondrement de la matrice judéo-chrétienne est liée notamment au progrès scientifique et technique. Hein, vous vous souvenez de la fameuse formule de Gagarine quand il est catapulté dans l'atmosphère, il dit « je suis monté là-haut, j'ai vu personne ». Hein, d'accord. Donc ça a quand même pas mal irrigué. Après, pour revenir sur ce que disait mon voisin, il faut qu'on prenne conscience, oui, alors c'est un peu tarte à la crème, mais de la vitesse à laquelle le progrès technique est en train de se déployer. Avec, il y a 20 ans, les smartphones qui n'existaient pas. Vous voyez comment les smartphones ont changé nos vies, très concrètement. Regardez aussi ce qui se passe aujourd'hui avec de l'intelligence artificielle. On le sait historiquement, les conflits sont souvent des périodes durant lesquelles on accélère le progrès technologique et technique. Et regardez ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine avec la guerre des drones. Donc il y aura des retombées civiles de tout ça, mais on ne fait plus du tout la guerre en Ukraine aujourd'hui comme on le faisait il y a 3 ans. Ça a changé et donc tous les états-majors, je s'écarte un peu du sujet, mais c'est lié, tous les états-majors occidentaux sont pris à contre-pied parce que les porte-avions, etc., etc., peuvent être mis à mal par quelques petits drones. Et on voit les progrès tout à fait spectaculaires qui sont accomplis en quelques années. Si on revient sur des choses beaucoup plus pacifiques, regardez par exemple, si vous vous intéressez à la presse étrangère, comment aujourd'hui, d'un simple clic sur votre tablette ou votre ordinateur, vous avez en instantané de la traduction en français des textes qui sont dans toutes les langues. Donc là, il y a aussi des questions sur le monde du travail, hein, parce que il y a des boulots qui vont disparaître massivement. Donc ce qui s'est passé, ce que disait Vincent Jarousseau sur les cols bleus qui ont pris de plein fouet la désindustrialisation de l'Occident, on a massifié les cols blancs, et donc demain, il y aura tout ça. Alors, on ne va pas désespérer Billancourt tertiaire, mais il va se passer pas mal de choses là-dessus. Peut-être juste, je reviens en arrière, ce que disait Vincent Jarousseau tout à l'heure, hein, quand il a évoqué 85, quand Jean-Pierre Chevènement dit « on va emmener 80% d'une classe d'âge au bac », quand Chevènement dit ça en 85, en France, là aussi sur les grands changements, il y a à peine 30% d'une classe d'âge qui va au bac. Il y a 40 ans, à peine 30%. Aujourd'hui, on a plus de 80%. Le revers de la médaille, c'est que du coup, la barrière a été rehaussée pour tout le monde et donc maintenant, la compétition scolaire s'était repoussée de plusieurs crans. Mais ça aussi, c'est un changement majeur et silencieux. On n'en parle pas souvent, mais c'est tout à fait fondamental. Et donc, dans beaucoup de familles, si en 40 ans, on est passé de 35% à 85% de bacheliers, ben c'est qu'il y a beaucoup de gens dans les générations de moins de 40 ans qui sont les premiers de toute leur histoire familiale à avoir accès aux études supérieures. Et donc, on parlera peut-être tout à l'heure sur le sujet, sur le travail. À mon avis, un des terreaux du mal-être au travail aujourd'hui en France, qui est plus prononcé qu'ailleurs, c'est sans doute l'inadéquation entre la réalité du monde du travail contemporain et ce qui a été vendu ou ce qui a été fantasmé chez tous ceux qui, pour la première fois, ont accédé aux études supérieures en se disant qu'ils n'auraient pas les emplois de leurs parents, qu'ils travailleraient dans les bureaux, qu'ils feraient autre chose, sauf qu'on n'a pas créé 80% de postes de manager durant la même période.
Merci. Alors Vincent, le problème, c'est qu'on n'y croit pas au progrès ou c'est qu'on ne le voit pas dans les territoires dont vous parlez?
Dans les territoires dont je parle, moi, le progrès, ça dépend ce que c'est. Moi, je vais prendre, peut-être me focaliser sur un exemple de progrès qu'on se crée, parce que le progrès, finalement, on peut aussi en être acteur. Et il y a un progrès auquel on ne pense pas forcément spontanément. On est dans une société dont les grandes métamorphoses, l'une des principales métamorphoses depuis 40 ans, est aussi son vieillissement. Alors, est-ce un progrès? C'est pas le vieillissement de la population en tant que... Il y a un progrès de pouvoir vivre plus vieux et en meilleure santé. Ça, c'est en soi un progrès absolument considérable. Mais il y a un autre progrès qui est encore à accomplir, selon moi, qui est de savoir comment on va accompagner une classe d'âge jusqu'à 80, 90, 100 ans dans de bonnes conditions. Et moi, j'ai accompagné pendant 2-3 ans celles qui accomplissent secrètement, quand je dis secrètement, de manière totalement invisible, sans reconnaissance sociale, ce progrès de pouvoir accompagner toute une classe d'âge vers le grand âge et vers l'autonomie que sont donc les aides à domicile, les auxiliaires de vie, les aides-soignantes, etc. Elles ont été un peu mises en avant pendant la crise sanitaire. Il se trouve que c'est un projet que j'ai réalisé pendant la crise sanitaire, mais que j'ai commencé avant, Les Femmes du Lien. Donc, c'est un livre que vous pouvez trouver ici. Donc, des femmes que j'ai suivies à la fois dans la France des Tours, en Seine-Saint-Denis, et dans la France des Bourgs, dans la Vénois, donc autour de Fourmies, qui est une petite zone rurale du nord de la France. Donc, avec d'un côté des femmes immigrées, plutôt d'Afrique subsaharienne, en Seine-Saint-Denis, que l'on retrouve massivement dans ces métiers, et plutôt des filles du coin, des femmes blanches, dans la Vénois. Et j'ai vu des femmes souffrir du manque de reconnaissance de leur métier. Il faut savoir qu'une aide à domicile doit en moyenne attendre 15 ans pour percevoir un SMIC mensuel. C'est la réalité de ce métier. On est sur un revenu moyen dans cette profession de l'ordre de 1000 euros par mois. C'est parce que vous avez des faux temps partiels qui sont... je parle de femmes qui travaillent à temps plein, mais qui sont payées partiellement, puisque toutes les horaires ne sont pas réellement prises en compte. Et avec souvent une confusion sur y compris la notion de leur métier. C'est-à-dire que souvent, ce qu'elles me répétaient, c'est on n'est pas des femmes de ménage, on n'est pas des agents d'entretien. Mmh. On a des compétences. Et en effet, réaliser la toilette d'une personne âgée en situation de dépendance au domicile, ça suppose beaucoup de compétences affectives. Et le progrès, selon moi, et c'est d'une certaine manière aussi selon ce qu'elles pouvaient exprimer elles, c'est peut-être de reconnaître à l'avenir des éléments de compétences que l'on ne retrouve pas justement dans ces stratifications de l'éducation aujourd'hui, c'est savoir de la main, c'est savoir du cœur, notamment dans une société qui va se technologiser de plus en plus, avec quelque chose qui est devant nous, et je ne sais pas si c'est un progrès, avec une partie d'écoles blancs qui vont se retrouver déclassées avec l'avènement de l'IA.
Alors on va y venir, puisqu'on va parler du travail, et le mot reconnaissance est peut-être un mot qui sera à un moment donné évoqué. Alors, on ne va pas leur souffler les thèmes, ils sont eux les spécialistes, mais j'ai quand même noté dans vos ouvrages des thèmes comme la place du travail dans la vie. Et donc, si on parle du travail, vous avez aussi le droit de parler du temps libre et éventuellement, pourquoi pas, d'évoquer la réforme des retraites, c'est possible aussi. J'ai noté le problème d'ascenseur social qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas. J'ai noté les conditions de travail avec un mot particulier de Laurent Berger, qui indique que sur pas mal de choses, les conditions de travail se sont plutôt améliorées. Et puis, la satisfaction au travail, la reconnaissance, etc. Alors, vous n'êtes pas obligé, quand on va faire travail, famille, patrie, d'intervenir sur tous les thèmes. Vous allez choisir qui choisit le travail. Allez, on y va, Vincent.
Oui, parce que, alors, certes, c'est vrai que j'insistais beaucoup sur le fait que depuis 10 ans, j'avais exploré la France qui vote RN. C'est une réalité, mais moi, l'essentiel de mon travail documentaire n'a pas nécessairement porté sur la question du vote RN, sauf sur mon premier livre, L'illusion nationale, et sur le dernier, évidemment, Dans les âmes et les urnes. Par la suite, quand j'ai fait ce travail à Denain avec Les Racines de la colère, puis avec Les Femmes du Lien, puis plus récemment, pour un projet autour de l'enseignement professionnel, Trouver sa voie, qui paraîtra l'année prochaine, il y a vraiment l'idée d'explorer justement la manière dont on vit son travail. Donc je parlais à l'instant des aides à domicile. Ça représente une part seulement de ce que l'on peut appeler une classe servicielle, c'est-à-dire que les classifications socio-professionnelles de l'INSEE aujourd'hui, finalement, ne disent plus grand-chose de ce qu'est devenu le travail. On a connu, comme je le disais à l'instant, une crise sanitaire avec un confinement en 2020, un confinement fort. Il faut savoir que pendant le confinement, le premier confinement, on a 11 millions de personnes qui ont travaillé hors télétravail. 11 millions de personnes. Parmi ces 11 millions de personnes, on trouvait les 3 millions de femmes du lien, les agents d'entretien, évidemment les travailleurs de la logistique, les agents, tous les métiers de la route, évidemment, parce qu'il fallait transporter les affaires. Il fallait sortir de chez soi pour s'en rendre compte la nuit, pour voir ce peuple de travailleurs finalement complètement invisible, qui compose une large part des rangs des électeurs du Rassemblement National. Parce qu'on est quand même là pour en parler, hein, puisque le cœur de cet électorat, on le retrouve dans le cœur du salariat relativement peu diplômé, même si évidemment on a un électorat qui s'est élargi. Et donc évidemment, moi, ça m'a amené à explorer ce monde du travail pour essayer de comprendre les ressorts. Et je vois un ressort dont j'ai déjà parlé, qui est celui du fait d'être bloqué en fait, dans son travail. Alors quand je dis d'être bloqué, c'est d'avoir une certaine impossibilité à évoluer, à progresser, à changer, à pouvoir se former. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est aussi un travail qui paye beaucoup moins. On a des évolutions salariales aujourd'hui sur une période de 50 ans qui sont extrêmement éclairantes. Hein. Jusqu'en 1980, on avait une progression annuelle de l'ordre de 4%. Puis on est passé à plus de 2% jusqu'en 2000. Et aujourd'hui, on est à 0,8% depuis les années 2000. Donc évidemment, ces évolutions, elles ne sont pas propres à la France. Elles sont encore plus marquées d'ailleurs aux États-Unis. Intéressant d'ailleurs de voir qu'aux États-Unis, y compris les salaires des classes populaires, en l'occurrence, régressent. Donc ça, c'est quand même un facteur, je dirais, pour mesurer la manière dont on reconnaît le travail. Donc il y a une forme de dévaluation du travail. On parle de valeur travail, oui. Mais on accorde moins de valeur au travail. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et ce qui renvoie à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est aussi donc, à l'évolution depuis les 30 Glorieuses de notre rapport à la production, c'est-à-dire qu'on a la création d'une société de services a aussi généré une société de loisirs, donc de temps libre, mais un temps libre qui peut profiter à une partie seulement des travailleurs, puisque évidemment on n'est pas tous logés à la même enseigne. Je travaille beaucoup, j'ai beaucoup côtoyé dans mon livre, et on en voit beaucoup dans ce livre, de femmes qui souvent se retrouvent seules avec leurs enfants et avec la charge oui. de leurs enfants, qui correspondent pour nombre d'entre elles à une part non négligeable d'électeurs du Rassemblement National et singulièrement de Marine Le Pen, qui capte très fortement l'électorat.
Et on en a vu pas mal sur certains ronds-points à certains moments, si j'ai bien compris votre propos.
Oui, on l'a oublié, mais le mouvement des ronds-points des deux premiers mois, moi, pour avoir été présent physiquement sur ces ronds-points, c'était presque un mouvement de femmes au départ. Il y avait une surreprésentation des femmes, c'est ce qui d'ailleurs me donne l'envie de travailler sur les métiers du lien par la suite.
Merci Vincent. Livre que vous allez voir est passionnant, mais il faudra qu'on soit très attentif au prochain, parce que prendre le pari de s'intéresser au lycée professionnel me paraît effectivement, et à l'apprentissage, me paraît tout à fait intéressant. Alors, travail, famille, patrie, on ne pourra sûrement pas aller en profondeur dans tous les trucs, donc soit vous êtes plus court, soit on va zapper deux, trois trucs. Vincent.
Juste sur le travail, pour dire un tout petit mot, parce qu'en réalité, ce n'est pas ma spécialité, et je ferai le perroquet de ce que dit Laurent Berger bien mieux que ce que je vais vous dire maintenant dans le livre. C'est d'abord redire à quel point, quand on parle de ce sujet, le travail, c'est presque, ça ne veut rien dire. Le travail, c'est un sujet incroyablement morcelé, puisque là, tu parles d'un type de travailleurs, et qui est important, évidemment, dans la société, qui sont le travail des classes populaires, le travail des plus fragiles, de ce que tu appelles ce que d'autres encore appellent les perdants de la mondialisation. Mais aujourd'hui, le travail, c'est une réalité très morcelée, c'est la première chose. Moi, je voudrais juste dire un point que souligne Laurent Berger, c'est que, y compris dans le domaine des services, aujourd'hui, on n'a plus aucune unité du travail. C'est-à-dire que il y a les types entre le chauffeur Uber et le professeur de l'université ou le kinésithérapeute, ils sont tous dans les services et pourtant évidemment c'est pas du tout les mêmes vies. Mais ce que disait Laurent Berger, lui, fort de son expérience de syndicaliste, c'était quand même que lorsqu'il interroge les travailleurs sur le travail, ce qui compte le plus, c'est qu'ils font d'abord du travail un outil de réalisation personnelle. Et que c'est un sujet qui n'est pas très exploité, je crois, dans l'espace public, c'est à quel point le travail, c'est ni un plaisir, ni une souffrance, c'est une façon de se réaliser. Et là, je voudrais quand même qu'on revienne, puisqu'on parle des métamorphoses françaises, sur une transformation fondamentale des sociétés occidentales, qui va avec la satisfaction des besoins matériels primaires supérieurs aujourd'hui à il y a 40, 50 ou 60 ans, qui fait qu'on commence à se poser des questions de type « est-ce que je me réalise dans mon travail ?» En 1955, vous travaillez parce qu'il fallait vivre. On ne se posait même pas la question, en réalité. Vous deviez travailler parce que c'est le travail. Si on avait interrogé les gens « êtes-vous heureux dans votre travail ?» Peut-être qu'il y avait des gens qui auraient développé des fiertés ouvrières. Ça, oui, dans certains espaces, dans les mines, dans les industries, etc. Il y a beaucoup de gens qui travaillaient parce qu'on travaillait, et puis c'était tout. Aujourd'hui, parce que la structure de la société, de ses besoins, de ses interrogations sur elle-même est devenue, j'allais dire, dans un terme qu'il faudrait expliquer, mais je vais aller très vite, qu'on appelle post-matérialiste, pardon pour ce terme, qui ne veut pas du tout dire que les gens n'ont pas de préoccupations matérielles, ils les ont encore, mais qui fait que dans beaucoup de domaines de la société, ils s'interrogent sur leur place dans la société, quel niveau de reconnaissance, quel niveau de développement personnel ils trouvent dans leur travail. Ce sont des questions assez nouvelles. Et aujourd'hui, si on devait dire quelque chose de travail, et c'est là-dessus que je m'arrêterai parce que je ne peux pas parler du reste, c'est vraiment qu'aujourd'hui, une question qui est relativement nouvelle, que se posent les gens, c'est dans quelle mesure je suis capable de me de m'émanciper personnellement, de trouver un développement, voire un bonheur personnel dans mon travail. Et ça, évidemment, avec la transformation que tu viens d'évoquer, entre autres, mais aussi la transformation du télétravail, la part du temps libre mêlée au travail qui implique le télétravail pour une partie de la société, évidemment une partie seulement, eh bien, ça pose des questions, je crois, assez nouvelles.
Alors, merci. Justement, je le signalais donc, dans Métamorphose française, Jérôme Fourquet s'interroge sur les croyances et sur les religions et sur un certain nombre de métamorphoses de la société française. Alors, j'aime bien poser des questions provocantes de temps en temps, donc j'y vais. Y a-t-il en France, Jérôme Fourquet, une religion du temps libre ?
Alors, en 82, il y a eu un ministère du temps libre.
Oui.
Alors, moi, je m'inscris dans ce qui vient d'être dit, mais il faut aussi voir comment, et là, on a des chiffres pour le montrer, non pas que les Français se détournent du travail. On rappelle, hein, il y a un sujet dont on parle quasiment plus aujourd'hui, alors qu'il aurait été au centre de tous les débats il y a encore 15 ans, c'est le chômage. Mmh. Aujourd'hui, on n'est pas encore au plein emploi, mais on est à 7,2-7,5% de taux de chômage. Et vous voyez que le seul discours qu'on entend, c'est des branches professionnelles entières qui sont en pénurie de main-d'œuvre. Le sujet aujourd'hui s'est déplacé, c'est plus sur non pas avoir un boulot, mais un boulot qui nous permet de vivre. Bon. Donc, ce n'est pas que les Français ne veulent plus travailler, c'est que le travail n'est plus aussi central dans leur vie. Et donc, ça rebondit aussi sur ce que a dit Vincent. Alors, en 1990, pas en 80, mais en 90, il y a une enquête qui est faite, on interroge les Français, un sondage, et 60% d'entre eux nous disent, à l'époque, le travail, c'est très important dans ma vie. 25%, c'est assez important, le reste, 15%, c'est pas important. On repose la question aujourd'hui, le travail est très important dans ma vie, c'est 25% de Français, donc on est passé de 60 à 25, et le deuxième poste, c'est assez important, on est à 60. Donc le sous-total important n'a pas bougé, mais c'est l'intensité de cette importance dans la vie des gens qui a considérablement diminué. Alors, comment en est-on arrivé là ? Alors d'abord, pour celles et ceux d'entre vous qui seraient fâchés avec les chiffres, cette perte de centralité du travail, on peut l'illustrer autrement par une formule en disant qu'aujourd'hui, pour beaucoup de salariés français, la semaine, c'est ce qui est entre les week-ends et les RTT. Vous voyez, dans les années 80, on disait il y a la semaine, après il y a le week-end. Maintenant, il y a les week-ends et les RTT. C'est ça qui fait le cadre. Et les trous dans le gruyère au milieu, c'est la semaine. C'est ça, cette perte de centralité du travail. Pourquoi on en est arrivé là ? D'abord, de manière très basique, parce qu'on y passe moins de temps. En 1990, en moyenne, un Français, il va passer 1825 heures dans l'année au boulot. Aujourd'hui, on y a 1600 heures. 225 heures de gagné ou de perdu, c'est selon. Donc, à 35 heures semaine, c'est 6 semaines dehors en plus qu'il y a 30 ans, en une génération. Vous êtes 6 semaines dehors en plus qu'il y a une génération. Donc, on voit que le travail, là, est moins central pour ça. Et ce temps libéré, il n'a pas été perdu pour tout le monde. Il y a une société de loisirs qui était déjà en développement, mais qui s'est considérablement renforcée. Les cinémas, les parcs à thème, les vacances, les courts week-ends, les longs séjours, etc. Donc EasyJet, Ryanair, Netflix, tout ça a construit des imaginaires. Vous savez cette pub où on a un couple de vacanciers sous des cocotiers, là, et puis il y a le patron qui arrive en costume et qui dit « Eh, mais Fourquet, là, il faut revenir, hein, faut rentrer du travail, faut rentrer au travail, etc. » Donc ça, on est dans cet imaginaire-là. Et puis, il y a aussi ce qui s'est passé, là, c'est le hors-travail, ce qui s'est passé dans le travail. Toutes ces années-là, Vincent Jarrousseau en a parlé, la désindustrialisation, pas que la désindustrialisation, mais ça s'est beaucoup observé notamment dans le secteur industriel. Il y a eu des énormes plans sociaux partout en France, avec souvent à la clé ce qu'on appelait le plan de départ en pré-retraite, dans les années 90-2000. Hein. Et donc c'était quoi le plan de départ en pré-retraite ? Eh bien on disait à quelqu'un qui avait 55 ans, qui avait 35 ans de maison, voire plus, parce qu'il commençait souvent à travailler un peu plus tôt, bah, merci d'avoir joué avec nous, mais on n'a plus besoin de toi. Bon, et le type, il rentrait chez lui. Est-ce que ceux qui ont fait ça avaient un peu oublié, c'est que ces gens-là avaient des enfants. Et ils ont raconté comment la partie s'était terminée pour eux. Et donc la génération qui est arrivée ensuite, parce que celle-là, celle qui a vécu ça de plein fouet, à 60%, elle disait « le travail, c'est très important pour moi ». Et puis on les a congédiés comme des malpropres. La génération qui arrivait en dessus, derrière, elle a dit « ah, nous, on ne va pas nous la faire ». Et donc moi, je vais reconsidérer mon rapport au travail parce que j'ai vu comment ça s'était terminé pour la génération du dessous.
Alors, prochain indicateur, Jérôme, je suggère que vous fassiez un sondage sur, je ne sais pas qui a un t-shirt, je peux pas, j'ai yoga, je peux pas, j'ai piscine, etc., etc. Ça serait peut-être révélateur. Alors, je vous ai dit, on court. Je vous ai dit, vous serez frustrés. Hein, mais on va quand même essayer de balayer les deux thèmes un peu à la mode de la course. Hein, famille, j'ai noté qu'on pourrait parler du portrait des familles d'aujourd'hui qui ne sont pas tout à fait les familles d'hier, de l'évolution évidemment de la place des femmes et dans vos travaux, on en parle beaucoup. Les nouvelles sexualités, on va zapper, sauf si vous y tenez absolument, parce qu'ils sont dans les livres et finalement vous n'avez qu'à les lire. Et puis la place des enfants, etc. etc. Qui veut parler de quoi ? Allez, sur la famille. Vas-y. Pardon, allez-y.
Non, mais comme je sens, si beaucoup mon travail, il y a une dimension intime, et moi, je mets un point d'honneur à toujours aller à passer du temps avec les gens au travail, mais aussi chez eux, et beaucoup en famille. Y compris, j'ai aussi suivi, pour les femmes du lien, à côté de Fourmi, ce qu'on appelle une TISF. Ce sont les techniciennes d'intervention sociale et familiale. C'est un métier très méconnu. Ce qu'on appelait dans le temps les travailleuses familiales, donc ce sont des intervenantes sociales qui vont dans les familles pour la CAF ou à la demande du juge pour enfants, avant éventuellement un placement de l'aide sociale à l'enfance. Et c'est assez intéressant parce qu'on voit aussi des structures familiales complètement atomisées. Et ça, je l'ai aussi beaucoup vécu à Denain, c'est-à-dire dans les catégories très très populaires. On a des familles qui se font, qui se défont, qui se refont. Et il n'est pas rare de voir une maman avec des 2, 3, 4 enfants issus de plusieurs parents, de plusieurs papas, je veux dire. Donc ça, c'est quand même des réalités présentes qui posent un certain nombre de questions, évidemment, dans l'organisation sociale, dans la prise en charge, dans l'accompagnement. On a aussi, y compris dans la composition des couples, en 40 ans, des évolutions phénoménales. Je veux dire, on a parlé de ça tout à l'heure, mais Internet, les applications de rencontres qui font qu'aujourd'hui, mais c'est même pas les applications de rencontres, hein, je veux dire, les simples réseaux sociaux suffisent finalement à ce qu'il y ait des rencontres qui se fassent, y compris entre Marseille et Denain. Moi, j'ai vu un couple, par exemple, se constituer comme ça, quelqu'un des quartiers nord qui avait emménagé à Denain parce qu'il avait rencontré sa douce à Denain via Facebook à l'époque. Donc, il y a vraiment des compositions nouvelles. Les couples qui se constituent au travail existent toujours, mais ils sont beaucoup plus rares qu'avant. Maintenant, c'est vrai qu'il y a quand même un objet, ça, je reviens et j'insiste là-dessus, même si on n'a pas beaucoup de temps, c'est quand même sur le poids des familles monoparentales en France, le fait qu'il y ait une impensée politique autour de ce sujet, et sur le fait que, en l'occurrence, Marine Le Pen capitalise politiquement énormément sur cette catégorie, puisqu'elle a construit aussi son image au départ en 2005, quand elle s'implante à Hénin-Beaumont. Elle est seule avec ses filles à l'époque, enfin, elle est seule, elle n'a plus de compagnons, le père des enfants n'est plus là, et elle a construit son image dans l'imaginaire comme une femme qui va s'occuper seule de ses enfants et qui bosse à côté. Et ça, c'est quelque chose qui est resté, et c'est ce qui fait que vous avez aujourd'hui un vote à l'extrême droite en France qui, dans sa composition de genre, diffère de ce que l'on a aux États-Unis ou même pour l'AFD en Allemagne, où le ratio est plutôt d'un tiers, deux tiers. En France, c'est 50-50, voire légèrement maintenant supérieur pour les femmes. Donc ça, c'est vrai que c'est un sujet en soi qui est extrêmement important à traiter.
Alors, merci Vincent. Pas de chance, Jérôme Fourquet. Toutes les questions provocantes sont pour vous. C'est un hasard absolu. C'est pas homogène, la question des familles. Et votre livre, comme le précédent d'ailleurs, l'évoque pas mal. La question provocante, c'est est-ce que le fait qu'en France, on ne fasse pas a priori de statistiques ethniques vous pose un problème pour analyser de façon fine le portrait des familles ?
Alors, je pense que tout ce qu'on a évoqué depuis tout à l'heure nous montre la vitesse assez stupéfiante à laquelle la société française a évolué. Et nous avons des outils statistiques ou des politiques publiques qui sont toujours en retard d'une guerre. Vincent Jarrousseau parlait tout à l'heure des classifications de l'INSEE. On s'était amusé avec on a les hobbies qu'on peut, hein, avec un co-auteur à regarder la classification des métiers dans l'INSEE. Et donc, comme c'est fait très sérieusement, ben, on a commencé par l'alphabet. Vous voyez, donc il y a les codes A, B, C, D, etc. Et ce qu'on disait tout à l'heure, que la désindustrialisation, vous avez des pages entières qu'on peut coller à la casse, parce qu'aujourd'hui, correspondent à des métiers industriels qui ont disparu de la surface du pays. Et en revanche, il y a plein de nouveaux métiers. Vincent en parlait tout à l'heure de certains d'entre eux. Et donc, ils sont tous aujourd'hui collés dans une, on a appelé ça, nous, les métiers du code Z. Hein, donc, les statisticiens ont dit, bah, il n'y a plus que le Z. Alors, vous avez le tatoueur, le psy, ils sont tous dans les codes Z, etc. etc. Je vais revenir à votre question, mais c'est pour dire le retard à l'allumage de l'appareil statistique par rapport aux évolutions de la société. Famille monoparentale, ça éclate au visage de nos gouvernements, de nos gouvernants, au moment de la crise des Gilets jaunes. Vous vous souvenez de cette jeune femme rousse, Ingrid Levavasseur, qui est une des figures des Gilets jaunes. Elle est là. Quand on dépouille les cahiers de doléances, on voit que la deuxième revendication après l'abrogation de la taxe sur le carburant, c'était le paiement, assurer le paiement des pensions alimentaires. On dit, qu'est-ce que ça a à voir avec les gilets jaunes et l'essence? Parce que beaucoup de ces femmes étaient sur les ronds-points. 40% des pensions alimentaires ne sont pas payées. Et donc, avec un temps de retard, les politiques publiques s'adaptent. Et aujourd'hui, c'est la caisse d'allocation familiale qui va payer la pension et qui va se retourner vers le père indélicat quand la pension n'est pas... J'en viens à votre question sur la question des statistiques ethniques. Et donc, culturellement, philosophiquement, on était sur un postulat, la République ne reconnaît pas les couleurs, trie pas ses enfants, et tout ça ne posait pas de problème parce qu'il se trouve qu'on était un pays à 99% blanc si on met de côté nos Outre-mer. Comme un peu dans cette salle cet après-midi, voilà. À partir du moment où la France, comme d'autres pays occidentaux, a connu des phénomènes d'immigration de masse, et que nous avons, par exemple, des problèmes de discrimination à l'embauche, discrimination au logement, que nous avons la montée du vote RN, notamment en lien avec cette question de l'immigration, il faut pouvoir se doter d'outils statistiques pour regarder ça. Et donc nous, beaucoup de statisticiens disent « Non, ce n'est pas notre culture, et puis on ne peut pas poser la question, etc. etc. » les anglo-saxons, y a pas de problème. Hein. On vous demande la couleur de peau, votre race.
Et on va divulgâcher, vous trichez un peu parce que vous vous intéressez aux prénoms.
Voilà. Et donc nous, on a contourné la difficulté. On s'est dit, voilà, on va regarder les prénoms qui sont donnés aux enfants. Et donc là aussi, vous voyez que les choses ont évolué d'une manière spectaculaire. Alors je remonte un peu plus loin. 1960, il y a 1% des enfants qui naissent en France qui reçoivent un prénom arabo-musulman. Aujourd'hui, c'est 21% des nouveau-nés. Plus de 50% de Seine-Saint-Denis. Et donc, si on ne regarde pas ça objectivement et froidement, on passe à côté de toute une partie de l'évolution de la société française. Qu'on soit pour ou qu'on soit contre, ce n'est pas le sujet. C'est-à-dire qu'il faut la regarder dans les yeux telle qu'elle est. Et donc, il faut se doter des outils pour le faire.
Alors, les amis, comme à un moment donné, on va vous donner 15 minutes pour les questions, il va falloir, et je vous avais dit que vous seriez frustrés, il va falloir qu'on soit très court sur la dernière partie. Patrie, c'est un bien grand mot pour dire identité, croyance, valeurs communes, civiques, religieuses, priorité de vie, etc. Tout ce qui est d'ailleurs très très bien représenté dans vos deux ouvrages notamment, mais qu'on voit apparaître également dans le vôtre. Sur ce thème-là, et vous n'avez pas trop de temps, parce qu'eux, ils en veulent aussi. Vincent ?
Avant qu'on vienne à la patrie, je reviens un peu sur la famille, parce que les portraits qu'on fait de la famille ici, je ne voudrais pas qu'ils donnent le sentiment que ce sont des portraits que négatifs, en réalité. Les familles ont profondément changé, mais c'est aussi pour le mieux.
Elles sont plus tolérantes.
Je vous donne un exemple tout bête. Jusqu'à la fin des années 90, le centre de recherche auquel j'appartiens, le CEVIPOF, posait une question sur une enquête qu'on appelle l'enquête valeur. Okay, on posait des questions aux gens sur leur tolérance et on leur demandait... Accepteriez-vous d'épouser un ou une divorcée? C'est seulement à la fin des années 90 que cette question est devenue statistiquement sans relevance. C'est-à-dire qu'en gros, il y avait tellement de gens qui disaient oui, c'est pas le problème. Mais ça veut dire que jusque dans la fin des années 90, cette question était un problème. Et en réalité, c'était un problème qui marginalisait surtout les femmes, on le sait. C'était la femme divorcée, c'était la femme potentiellement voleuse de mari, promise à des formes de marginalité, parce que comme il y avait beaucoup de mariages, c'était la norme. Sortir de cette norme-là, c'était se mettre, si ce n'est au banc de la société, en tout cas, prendre un risque social. Ça, c'est une dimension qui a complètement disparu. C'est-à-dire que la tolérance sur les modes de vie, sur la nature des couples, je n'ai même pas besoin d'aller jusqu'aux familles homosexuelles, donc l'explosion de la tolérance, et encore une fois, je ne dis pas qu'il n'y a plus d'intolérance, mais c'est une tolérance qui est d'une rapidité dans tous les milieux sociaux, dans tous les univers, qui traverse tout le champ politique jusqu'au RN. Hein, bon. Et ça, c'est quand même une dimension assez spectaculaire. Je demandais justement à Jérôme
la proportion de familles monoparentales dans les années 70-80, on était en dessous de 10%. Bon, aujourd'hui, c'est un quart des familles qui sont reconstituées, pas monoparentales, pardon, reconstituées, reconstruites. Un tiers, voilà. Donc, ouais, c'est un tiers. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, la structure des familles, on apparaît sur une histoire de... Enfin, on voit s'avancer une société de plus en plus tolérante sur les modes d'organisation familiale. Et quand même, il ne faut pas oublier que c'est quand même quelque chose qui a créé des souffrances prodigieuses jusqu'à présent dans le passé, c'est-à-dire les gens qui souffraient d'être avec la mauvaise personne, qui souffraient de ne pas être reconnus dans leur sexualité, dans leurs aspirations de vie intimes, et qu'aujourd'hui, l'intime est devenu politique pour une partie de la société, mais il est devenu un non-sujet pour une autre partie de la société. Et ça, je crois quand même qu'on peut s'en réjouir.
C'est ce que je veux dire sur la famille. Il y a une fort belle statistique qui est la statistique qui montre que l'évolution du « je crois que l'homosexualité est une maladie ouais. », je crois que c'est dans votre livre, Jérôme.
Dans les années 80, alors on fait un peu de cuisine sondagière, hein. À l'époque, les sondages sont faits en face à face. Et donc, il y a une question qui est posée, qui est très dure, en disant, pour vous, l'homosexualité, il y a trois options. C'est une maladie à guérir, une perversion à combattre, on posait les questions comme ça, hein. Ou une façon comme une autre de vivre sa sexualité. Et en face à face, au milieu des années 80, vous avez 40% des Français qui sont sur l'option 1 ou 2. Perversion à combattre ou maladie à guérir. Aujourd'hui, on les fait online, les enquêtes, donc il n'y a plus d'interférence avec un intervieweur, donc on peut avoir la vérité des prix, si je puis dire, et on est à peine à 15%. Donc en 40 ans, là aussi, on voit une décrispation tout à fait spectaculaire sur ces questions-là.
Oui, les amis, que ça s'est un peu amélioré quand même, hein, donc pour donner raison à une partie de notre public tout à l'heure. Alors là, messieurs, c'est le pompon, vous êtes obligés de faire hyper vite, parce que on va leur donner, ils y ont droit, leur quart d'heure de célébrité et surtout d'échange avec les auteurs. On parle un peu de la patrie quand même. Patrie, ce qui veut dire évidemment identité, valeur de rattachement. Les Français sont-ils régionalistes? Vous en parlez. Sont-ils nationalistes? Il y en a d'autres qui en parlent. Sont-ils européistes? On peut en douter dans une partie de la population. Qui s'y colle? Allez, Vincent Jarousseau.
Oui, donc c'est toujours pareil. Il n'y a pas de réponse unique, mais c'est vrai que... En allant dans ces différentes régions, sans parler de régionalisme, il y a une forme d'attachement à ce que l'on appelait au début de la Troisième République, un attachement aux petites patries. Les petites patries, c'est des formes d'attachement finalement aux cultures locales, qui sont surinvesties d'ailleurs par les élus Rassemblement National locaux. Je prends l'exemple, par exemple, je cite dans mon livre les fêtes de la Madeleine à Beaucaire, donc dans cette ville du sud de la France, qui correspond à la feria de la ville qui va durer une dizaine de journées, qui est un événement populaire qui existait bien évidemment avant le Rassemblement National. Et en l'occurrence, vous avez à l'époque un maire, Julien Sanchez, à Beaucaire, qui est plutôt pas un farouche partisan de la tauromachie, qui est lui-même pas un consommateur de viande, mais qui sait que c'est très important d'apparaître comme quelqu'un qui va accompagner tout ça et donner... Et donc, il est extrêmement présent sur ces fêtes et il surinvestit politiquement, en fait, ces fêtes, ces traditions locales. Et il y a, c'est vrai, un attachement. Et partout où je suis allé, et je suis allé dans beaucoup de régions, j'ai jamais entendu quelqu'un me dire qu'il trouvait sa région pourrie. Et voilà, c'est souvent...
Bon, tout à l'heure, vous leur demanderez, là, ceux qui
et
sont
Et pourtant,
pires,
je vous assure que quand vous allez dans...
Voilà. Ici, hein, surtout.
Surtout quand vous... Ouais, ici, ça va, mais quand vous allez dans la vallée de la Fensch, à Denain... je sais pas moi, dans l'Oise par exemple, dans des endroits qui sont des zones d'entre-deux assez anonymes entre la Picardie et la région parisienne, vous pouvez vous poser la question finalement du cadre de vie. Et bien même dans ces endroits finalement il y a un attachement, parce que ce sont des lieux où finalement on a des repères, des attaches familiales souvent, parfois une histoire qui s'est construite sur le tard, et que finalement ça passe aussi un peu avant la nation. Alors la nation, elle existe toujours. Hein. Moi, j'ai vu fleurir les drapeaux bleu, blanc, rouge dans les jardins au cours de ces 10 dernières années, un peu comme une forme de mimétisme de ce que l'on voit depuis longtemps aux États-Unis. Je l'ai vu d'ailleurs, et ça, c'est très intéressant, au moment de la Coupe du Monde. J'en parle dans mon livre, dans Les âmes et les urnes. Je cite deux exemples. La Coupe du Monde 2018, à Denain, et les Gilets jaunes. Deux événements qui ont lieu à 6 mois de distance. À Denain, dès que la Coupe du Monde commence, même avant, les gens investissent cette fête parce que c'est une fête collective dans laquelle on va se retrouver, où on va communier, on se décore, on décore les voitures, on peint les maisons. Et dès le premier match d'équipe de France, tout le monde défile dans la ville. Il veut me couper le micro.
Ouais, je suis obligé. Hein, parce que
non, mais très rapidement, ce que je veux dire, c'est que dans les grandes métropoles, à Paris, il n'y a absolument rien au début de la Coupe du Monde. Et cette différence, elle est marquée aussi au moment des Gilets jaunes. Avant même que les Gilets jaunes commencent, 3 semaines avant, je vois fleurir les Gilets jaunes sur les pare-brises des voitures. Ce que je veux dire, c'est que dans ces petites villes, finalement, qui sont un peu, je dirais, en dehors des coups de la mondialisation, il y a un besoin de se retrouver ensemble et, de célébrer une forme de fierté de ce que l'on a de la France. C'est pas forcément un gros mot. Et il y a une forme de, et ça je finirai mon propos là-dessus, il y a une forme de tristesse, de nostalgie de ce qui est devenu notre pays. C'est pour ça que la thématique, selon moi, de la tiers-mondisation du pays qui est posée politiquement, et alors là, pour le coup, ça va complètement à l'encontre du livre de Vincent. Hein, je dis pas que, mais dans le récit, c'est quelque chose qui est très entretenu. C'est une réalité. Et la question, c'est quelle réponse on y apporte.
Vous avez vu, j'ai dit tout à l'heure qu'il a commencé par une carrière politique. C'est comme ça qu'on les reconnaît. On a du mal à leur couper la parole. Voilà. Merci Vincent pour ces propos extrêmement précis. Vincent Martigny, et ensuite on passe au public.
C'est un sujet incroyablement complexe. En plus, je me sens un peu de mauvaise grâce de répondre en 3 minutes parce que j'ai passé une quinzaine d'années à travailler sur ces sujets. Donc, je vais le faire très court. Ce qui a changé, l'attachement régional dans les années 80, quand on interrogeait les gens pour savoir ceux qui étaient le plus attachés à leur région, il y avait une composante politique. Souvent, c'est des gens qui politisaient leur attachement régional. Aujourd'hui, cet attachement régional politique, il a quasiment disparu. Les autonomistes bretons, basques, etc., etc. Et l'attachement, il est maintenant culturel. Je ne dis pas qu'il a totalement disparu. Je dis qu'il est essentiellement culturel et généralisé. En effet, ça rejoint ce que dit Vincent Jarousseau. L'attachement à la nation, la fierté française, elle demeure très élevée. Ça fait 15 ans qu'on l'évalue dans les ensembles de sondages. En gros, 80% des Français déclarent qu'ils sont fiers d'être Français. On a presque une baisse des gens qui disaient « je suis citoyen du monde ». Ça baisse. Il y a un maintien, contrairement à ce qu'on dit, de ceux qui sont attachés à l'Union européenne. Hein, ce n'est pas un effondrement du tout, contrairement à ce qui est dit fréquemment dans beaucoup de récits médiatiques. Et en revanche, l'attachement national reste assez élevé. Ce qui change, je crois, et je dirais un mot là-dessus, c'est probablement encore une fois une tolérance dans le pays réel, mais pardon d'utiliser ce terme, accrue sur les différences culturelles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si une partie de la population qui vote RN s'en plaint de l'immigration, de ses troubles, de l'insécurité, etc., en réalité, au quotidien, les Français ne manifestent pas d'hostilité, enfin, manifestent une tolérance plus grande qu'auparavant vis-à-vis des gens qui vivent à côté d'eux et qui ont une autre culture, en tout cas de départ, et donc essayant de trouver plutôt des points de rencontre que des points de division. Et ça, c'est une dimension, je crois, fondamentale parce que justement, elle ne perce pas souvent le mur médiatique et le mur politique. Et à ce titre-là, je pense qu'il y a un décalage même parfois. Alors, qu'on a fait des entretiens, moi j'ai fait un certain nombre d'entretiens avec des gens qui vous disaient, dans ma vie quotidienne, ah bah oui, ma cousine est mariée avec quelqu'un qui est d'une autre culture, d'une autre religion, une autre. Ça ne me pose pas de problème, mais en revanche, lorsqu'on me demande de considérer la communauté politique en elle-même et la communauté nationale, là, je manifeste des idées beaucoup plus rigides et beaucoup plus fermées. Donc, il y a un décalage entre le réel des gens au quotidien et parfois ce qu'ils disent, parce que c'est médié par les récits médiatiques, sur l'état de la France. Et donc, je pense qu'il faut se méfier de cette décorrélation et revenir plutôt aux gens.
Alors, tout à l'heure, dans les échanges avec les auteurs au Salon du Livre, quelqu'un d'entre vous se chargera de leur expliquer la différence entre un Savoyard et un Savoisien. Vous inquiétez pas, ils vont vous faire des enquêtes de terrain, il n'y a pas de problème. Alors, à votre tour d'être terriblement frustré, mais avant, parce que c'est en général les gens qu'on oublie à la fin, je voudrais remercier les gens de la technique et les gens qui passent les micros qui sont là, et je vous demande de les applaudir. Alors, question courte, réponse courte, frustration maximale.
Bonjour.
Première.
Alors, merci pour tous ces discours, très intéressants. Moi, je voulais revenir à ce que vous disiez sur les classes d'âge qui ont entamé des études supérieures, donc pour la classe d'âge qui va au bac. Est-ce que, pour rejoindre aussi la notion de crise de futur que vous avez évoquée, est-ce qu'on a amené ces gens-là en études supérieures sans donner forcément de perspective derrière, de modèle à appliquer, et donc qu'on a fait des gens avec des emplois qu'on a dû un peu occuper à défaut. Et est-ce que le système s'est pas un petit peu auto-détruit ? Je m'explique. Désindustrialisation, bullshit job. Et au final, on commence à le percevoir, retour en arrière au sens où on déserte ses études supérieures là en ce moment.
Qu'est-ce qu'on fait ? On en prend plusieurs ou on en prend plusieurs et puis ensuite, et puis n'oubliez pas que vous les reverrez après. Hein. Deuxième question quelque part, de façon à... qui a le micro là ? Je ne vois pas, madame.
Bonjour et merci beaucoup. Je vais faire une question très courte, mais vous avez déjà embrassé des sujets super larges. Et en même temps, j'aimerais savoir, d'après vous, qu'est-ce qui fait la spécificité de la France dans un contexte mondialisé sur ces fameuses métamorphoses ?
Oui. Un point important que, effectivement, qu'on pourrait encore approfondir dans les trois livres. Oui. Ensuite, allez, une dernière, et puis après, ils vont répondre. Et vous aurez à les remercier chaleureusement.
Vous avez dit beaucoup de choses sur la transformation des familles et du fait que les femmes se retrouvent avec leurs enfants. Quid des pères ?
Alors, les pères, la place de la France. Qui s'y colle ? À moins que ça soit le sujet du prochain livre. Non. Allez-y, alors, Jérôme.
Alors, merci pour vos questions. Alors, peut-être sur la spécificité française sur toutes ces grandes métamorphoses, il n'y a pas forcément de spécificité française. C'est-à-dire que ce qu'on constate, recomposition des modèles familiaux, sécularisation des sociétés, désindustrialisation, vous avez, facteurs migratoires, vous les avez dans toutes les grandes démocraties occidentales, à des niveaux plus ou moins prononcés. Et donc, on s'est surtout concentré sur un pays qu'on connaît un peu, qui est la France. Mais je pense qu'on a grosso modo les mêmes recettes et les mêmes phénomènes, en tout cas en Occident. Modulo quelques spécificités locales. Je laisserai mes camarades répondre sur les pères. Ouais, lui, il est chaud. Sur les bullshit jobs et autres, ben, effectivement, donc, quelqu'un que je connais un peu qui s'appelle Jean-Laurent Casselli, parce qu'on a écrit un livre ensemble, qui a écrit un livre qui s'appelle « La révolte des premiers de la classe ». Qui raconte comment une partie des jeunes diplômés aujourd'hui qui sont dans ce que d'aucuns appellent les bullshit jobs, les trucs qu'on fait beaucoup de PowerPoint, alors nous on en fait beaucoup à l'IFOP, eh bien se disent à un moment je suis en quête de sens et on va arrêter tout ça. Alors ça existe, mais ce n'est pas la majorité de l'espèce. Hein, c'est pas, vous voyez que alors, dans vos régions, il y a des gens qui reviennent, un certain nombre de métiers manuels, qui quittent les villes, etc. On en parle beaucoup, c'est très médiatique, mais ce n'est pas non plus extrêmement massif. Ce qu'il y a derrière, je pense, et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le décalage, vous l'avez souligné, entre le niveau de diplôme et l'aspiration ou ce qu'on a pu projeter comme emploi qu'on pourrait occuper et la réalité des tâches et des missions qui vous sont aujourd'hui confiées. Il y a un chercheur américain qui s'appelle Peter Turchin qui lui montre comment, dans une société, quand on a une surproduction d'élite, et qu'on ne peut pas complètement l'occuper, eh bien, on crée des situations révolutionnaires.
Bien sûr.
Et donc, vous voyez qu'aujourd'hui, par exemple, une des caractéristiques, il y en a plusieurs, mais une des caractéristiques d'une frange importante de l'électorat de la France insoumise, c'est d'être composée par beaucoup de jeunes très diplômés qui sont souvent dans des jobs qui n'ont pas des niveaux de rémunération auxquels ils pourraient normalement prétendre compte tenu de leur diplôme. Donc, voilà.
Moi, d'un mot sur la question de la singularité française, je vais prendre un angle, je crois. Je suis d'accord, évidemment, avec ce qu'a dit le camarade Fourquet. C'est plutôt que sur un sujet qu'est la confiance. Moi, je me suis beaucoup intéressé aux questions de confiance politique. Lorsque vous interrogez les Français, est-ce que vous avez confiance dans votre famille, vos voisins, des gens que vous ne connaissez pas, des gens que vous ne connaissez pas, que vous rencontrez pour la première fois, et des gens que vous ne connaissez pas d'une autre religion ? Tous les taux sont soit très élevés, soit de toute manière dans la norme de nos voisins. C'est-à-dire, si vous observez l'Allemagne, l'Italie, la Grande-Bretagne, c'est une confiance, vous êtes à 90% pour la famille, 90% pour les amis, ça baisse un petit peu après, mais c'est quand même assez élevé, on n'a pas de décalage. En revanche, si vous posez la question différemment et que vous dites, pensez-vous que de manière générale, dans la société, on puisse faire confiance aux autres ? Là, tout s'effondre. Et on est à 10 à 20 points de confiance en moins que nos voisins. C'est-à-dire qu'en tant que communauté politique, nous ne nous faisons pas confiance. Ça, je pense, ça, c'est quand même une caractéristique très forte. Quand on parle de la crise de la confiance, il faut bien préciser, ce n'est pas que les gens n'ont pas confiance les uns dans les autres, vous, en tant que vous-même, vous vous faites confiance. Mais lorsque, parfois médiés par des récits médiatiques, mais pas que, on s'interroge sur les Français, la France comme une communauté politique, là, je crois qu'il y a malheureusement une singularité. Autre singularité qu'on connaît, mais je la rappelle toujours, parce que je la trouve toujours assez amusante, quand vous demandez aux gens, est-ce que vous êtes heureux ? La France fait partie dans les 50 pays des taux très élevés. Oui, je suis heureux dans ma vie, dans ma famille, dans mes aspirations. Est-ce que vous pensez que demain, ça ira mieux ? On est 49e sur 50. Et sachant que le 50e, c'est l'Italie. Vous voyez, en termes de pessimisme sur une enquête mondiale, où les premiers pays sont évidemment le Bangladesh, le Pakistan, parce qu'évidemment, quand vous êtes dans une situation difficile, bah, vous pensez toujours que demain, ça ira mieux. Alors peut-être qu'il faut le prendre aussi comme ça. Mais je crois qu'il y a une singularité française dans ce domaine.
Alors, quelqu'un d'autre dans le Salon du Livre traite d'ailleurs de la question de faut-il encore avoir des enfants ? Donc, vous pourrez regarder. Tu as une minute.
Non, mais comme j'ai débordé tout à l'heure. je vais quand même répondre parce que la question posée par madame, dans le fond, sur les pères est centrale. En effet, quand il y a eu les émeutes en 2023, il y a eu quand même des études sur les jeunes qui ont été. Interpellés et notamment il y a quelque chose qui ressortait extrêmement fortement, c'était l'absence des pères, l'absence des darons, mais pour le coup vraiment des papas. Alors, absence physique, il y a une statistique qu'il faut prendre en considération, c'est le nombre de personnes incarcérées en France qui a fortement augmenté, et le nombre de personnes incarcérées parmi ces enfants qui ont été ou qui le sont. Finalement, ça représente une masse non négligeable. Mais on en revient aux questions du début, aux questions du travail. Vous avez aussi des pères absents qui ne sont pas forcément absents parce qu'il y a eu un divorce ou une séparation. Mais est-ce que dans l'évolution du travail, on a de plus en plus de travail qui demande de l'hypermobilité dans les métiers des transports, les métiers du BTP. Je parle notamment des travailleurs du bâtiment qui sont des travailleurs itinérants qui partent toute la semaine. On le voit beaucoup dans les campagnes où finalement, celles qui tiennent les familles et les campagnes, ce sont les femmes qui, elles, sont présentes. Ce qui fait que, d'ailleurs, les lieux de sociabilité ne sont plus les bistrots, mais plutôt les salons de coiffure et les salons d'esthétique, pour parler comme Jérôme Fourquet.
Écoutez, chers amis, vous nous avez aidés à supporter la frustration de vous voir partir. Comme vous le constatez, vous avez un certain nombre de sujets de conversation avec eux tout à l'heure sur le salon. Ils vous attendent sur le salon, peut-être même sur un banc complètement épuisé, etc. En tout cas, merci à vous, public, d'avoir joué le jeu. On ne peut pas vous passer la parole une demi-heure quand on a une heure et quart pour bosser. Bonne journée.
Vous avez aimé cet épisode ? Vous aussi essaimez la matière à penser en la partageant autour de vous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet livreenmarche.com. À bientôt !